Adam cède, on se livre et on se met maintenant, alors qu'on était sous l'autorité de Dieu, on était censé collaborer avec lui, on passe de l'autre côté. Au moment où on passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Dieu se retire. Il est toujours là, mais il se retire. La relation est brisée, l'intimité est brisée quasiment instantanément. Il vient leur reparler, mais c'est brisé. Et on est séparés. Et on va lire tout de suite, on va approfondir cette pensée que je vous avais donnée. On va aller plus loin par rapport à ça. Luc, chapitre 4, versets 6 et 8. Je vous avais déjà donné ce verset. Alors, c'est quand Jésus est tenté par Satan. Après son baptême, il est envoyé dans le désert et Satan vient et vient tenter Jésus. Il lui dit, à un moment donné, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. C'est Satan qui parle. Et au verset 6 toujours, il dit tout cela m'a été remis. Et tout cela lui avait été remis au commencement, au moment du péché originel. L'autorité est venue et il a saisi cette autorité et tout est entre ses mains. C'est lui qui domine. Dieu est en recul, il maîtrise tout, mais c'est Satan qui domine. Et alors, on va voir maintenant dans Jean chapitre 10, verset 10. Quel est le type de domination de Satan? Et le voleur, c'est Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est Jésus qui parle. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Voilà comment ça s'est transformé. À la base, on était censé avoir une relation exceptionnelle avec Dieu, travailler avec lui. On se retrouve sous un gouvernement qui est totalement l'opposé. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. C'est ça l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Dieu, c'est de collaborer avec toi. Et l'œuvre de Satan, c'est de te détruire. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Si on veut aller plus loin, on a besoin de comprendre ça. Parce que sinon, on vit dans un monde où tout est cool et puis j'avance dans ma vie chrétienne et je suis pas conscient de ça. Et puis, tu te prends des claques. Tu as besoin d'être vraiment conscient que Satan est venu pour dérober. Il est venu pour t'égorger. Ah, c'est dur ce que je dis ce matin. Oh là 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 là. Moi, je tremble quand je vois ça. Alors, finalement, on a parlé ensuite de l'œuvre de Christ. Parce que si on s'arrête là, excusez-moi, mais ça fait peur. Hein. On n'a pas un bel avenir. Hein. Et l'œuvre de Christ, Matthieu 16, verset 19. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est encore vivant, il enseigne ses disciples et il va dire, il parle à Pierre, Jésus parle à Pierre. Et il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qui m'intéresse là, c'est la première partie du verset. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Au moment où Ève et Adam ont péché, c'est comme si une porte s'était fermée. L'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu, la collaboration avec Dieu s'est fermée. Bien sûr, tu pouvais toujours, il y avait des choses, mais ça c'est, il y a une porte qui s'est fermée. Et Jésus revient, et l'œuvre de Christ, ça a été de réouvrir. L'œuvre de Christ, ça a été aujourd'hui au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, eh ben, il commence à te donner la vie en abondance. Et là, il dit maintenant, je veux encore collaborer avec toi. Je veux encore collaborer avec toi. C'est ça l'œuvre de Christ. Christ est venu pour sauver ce qui était perdu. On avait perdu quelque chose d'exceptionnel là. Et lui est venu pour sauver ça, racheter ce qui avait été perdu et pour nous le rendre. Et c'est très important de comprendre ça. Ensuite, on va lire prochain verset. Je te l'ai donné ou pas? Après sa résurrection, je pense que je ne te l'ai pas donné. Alors, après sa résurrection, Christ vient et puis il va dire... Si, Matthieu 28, Gaël. Matthieu 28. On va le lire, c'est mieux. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on est d'accord, on avait tout perdu. Jésus, avant sa mort, va dire à Pierre et à ses disciples, je vais vous donner, je vais vous rendre les clés du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas encore fait. Et après sa résurrection, il revient vers ses disciples et il leur dit quoi ? Il leur dit, tout pouvoir maintenant m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, il dit, allez. C'est intéressant. Ça veut dire que Satan savait ce que Jésus venait faire là. Il savait qu'il venait récupérer ce qui avait été perdu pour nous le rendre. Et à partir de ce moment-là, à nouveau, nous pouvons nous associer avec Dieu et travailler en collaboration avec lui. Voilà, donc j'ai remis les bases. Et finalement, qu'est-ce que l'œuvre de l'enfant de Dieu ? Je suis sauvé, j'accepte Jésus dans ma vie, très bien, je fais des arcs-en-ciel, on l'a dit, on peut faire des cosmétiques spirituels, se faire plaisir, on peut faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que réellement l'œuvre de l'enfant de Dieu ? Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et je vous avais dit que finalement, Dieu nous donne maintenant cette autorité et notre principal objectif, c'est de mettre au jour l'œuvre de Satan, le mettre au jour, c'est-à-dire voir ce qui se passe et puis défaire l'œuvre de Satan. C'est ça notre objectif. Si tu es chrétien juste pour toi-même, il y a un problème. Parce qu'on doit aller plus loin. Et on peut voir... Tu n'avais pas mis Éphésiens là Éphésiens 6, verset 12. Si ? D'accord, je me suis trompé de verset alors, mais ce verset-là était bon. Alors, un autre verset. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous. Dieu nous dit maintenant « Revêt-toi ». Et j'aimerais te dire qu'on a entendu ce matin qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une fois que tu acceptes Jésus, c'est bien et on croit en ça, on croit que Dieu peut nous tirer de la boue, peut nous amener vers de nouvelles choses, qui restaure les cœurs brisés. Mais souvent la parole de Dieu nous dit « revêt-toi, revêt-toi ». Il n'est pas écrit « je vais te revêtir », il est écrit « revêt-toi ». Et j'aimerais ce matin tout simplement vous parler de notre responsabilité. Il y a un don qui nous a été fait. Une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as une responsabilité et tu deviens redevable envers Jésus-Christ lui-même. Tu es redevable. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes redevable ? Tu es redevable de chaque mot qui sort de ta bouche. Tu es redevable par rapport à ton style de vie. Tu es redevable par rapport à tes pensées. Tu es redevable de tout devant Dieu. Parce que tu lui as dit « j'accepte de te donner ma vie ». Souvent, on maîtrise pas ce que ça veut dire. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mes pensées. Je te donne mon corps. Je te donne tout. Et trop souvent, on se dit, mais Dieu fait tout. Dieu fait tout. Ah, je vais laisser Dieu agir. Ah, c'est Dieu qui va faire. On entend ça dans le monde chrétien. Je vais laisser Dieu agir. Il va faire les choses. Je crois. Et puis, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu agisse ? Tu es redevable. Tu as signé un contrat. Et quand tu as signé ce contrat, tu as accepté que Jésus est mort pour toi. Tu l'as accepté. Mais maintenant, il faut que tu tiennes la baraque. C'est à toi de la tenir, la baraque. Les choses, ce n'est pas Dieu qui va les faire pour toi. Il va t'aider. Ça marche ? Est-ce que tu peux remettre Jean chapitre 10, verset 10 ? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu es sauvé, c'est bien, tu as accepté Jésus dans ta vie, mais maintenant ta tête est mise à prix. Ta tête est mise à prix. Ma tête est mise à prix et ça chauffe. Et c'est là où maintenant Satan continue de s'opposer à toi. Il continue à s'opposer dans chaque aspect de ta vie. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais Dieu, Satan, son objectif, c'est vraiment de dérober ce que Dieu a pour toi. Les plans qu'il a pour ta vie, il veut te fatiguer. Et l'outil qu'a Satan, c'est le péché. Et on vient maintenant au thème principal de la prédication, le péché. Le péché, c'est l'outil utilisé par Satan pour te déstabiliser. Le péché, c'est l'outil utilisé par Satan pour t'atrophier. pour te complètement t'anéantir tout doucement, pour t'aveugler. Et finalement, le fait que Jésus est mort pour toi, que tu es appelé à avoir une vie en abondance, ça s'efface. Et ton quotidien devient vraiment beaucoup plus réel que l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Jésus a vaincu le péché, n'est-ce pas ? Et là, tout le monde dit « Alléluia », on entend souvent dans les prières « Seigneur, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, je suis ton enfant ». Oui, Jésus a vaincu le péché. Mais j'aimerais vous dire que si Jésus a vaincu le péché, eh ben, ce n'est pas pour cohabiter avec le péché. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, j'aimerais aller vivre à Tri-Select, à Aluin, là où tous les déchets de la métropole se retrouvent. Mon rêve, c'est d'aller sur la plus haute montagne de déchets, de m'installer là, moi et ma famille. » Moi, j'ai jamais entendu ça. Vous avez déjà entendu ça? J'ai plutôt entendu « je vais aller sur la Côte d'Azur, là où il fait beau, là où il est agréable de vivre, là où on va se faire plaisir. » Vous voyez? Mais si Jésus a vaincu le péché, là où tu es responsable, c'est d'éliminer, d'éradiquer le péché de ta vie. Ah, c'est dur, hein? C'est vraiment dur. Et là, on vient au nerf principal chez les chrétiens. Des fois, c'est dur pour nous. Le péché est là. Et des fois, il nous domine. Il nous domine totalement. Et on en arrive à un point où quelque part, on se dit « Mais Seigneur, tu ne me libères pas. » Parce qu'on a cette pensée que c'est Jésus qui libère. Oui, il a vaincu la mort. Oui, il a vaincu le péché. Mais maintenant, tu es redevable. Et il te dit « Maintenant, fais un pas. Et tu vas voir comment je vais te soulager de ton péché. » Il dit « Fais un pas. Sois fort. Dieu t'ordonne que tu sois puissant, Faoula, puissante. » Ah ouais, c'est important ça. C'est important. Et finalement, il est tellement sain que quand tu commences à accepter Jésus dans ta vie, il commence à faire le ménage. Il prend le balai et Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien dire. Dieu est un Dieu d'amour, il m'aime, il va m'aider. Oui, il est un Dieu d'amour, mais il va faire le ménage parce qu'il t'aime, parce qu'il sait qu'il y en a un qui est là pour t'égorger et te détruire. Il le sait très bien. Et lui, il veut pas ça pour ta vie. Il veut travailler avec toi, il veut que tu comprennes. Si, une fois passé par les eaux du baptême, tu étais parfait, ce serait tellement plus simple. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La seule solution, c'est de mourir à ta chair. C'est la seule solution. La seule solution. Mourir à ta chair. Mourir à tes penchants. Mourir à toutes les choses qui te tirent vers le bas. Laisse-moi te dire que ton corps entier te tire vers le bas. Le monde entier te tire vers le bas. Chaque pensée qui se passe dans ce monde, chaque chose que tu peux voir te tire vers le bas. La seule chose qui va te relever, c'est Jésus. La seule chose. Et ce matin, Sandy a dit, elle a dit quoi ? Elle a dit, on doit fixer les yeux. Fixer les yeux. Parce qu'on est tellement tiraillés. Tiraillé, on te dit quelque chose et tout de suite ça chauffe en toi. Tu es frustré, tu n'es pas bien, il y a la colère qui monte, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du péché originel. Et ce matin, j'aimerais vous sensibiliser sur le fait que nous avons cette responsabilité d'être objectifs sur notre propre vie, d'être objectifs sur nos propres choix. Est-ce que vous me suivez toujours ? Ah, c'est dur à entendre hein, ce matin. La semaine passée, on a aussi entendu lors de la prédication de Sandy que nous sommes des gens ordinaires. Et ça, il faut être conscient aussi de ça. On est ordinaire. Le seul qui est extraordinaire, c'est Dieu. Le seul. Mais toi, t'es ordinaire. Ouais, t'es ordinaire. Claude, t'es ordinaire. Voyez, moi j'ai travaillé hier et puis... J'ai vite vu que j'étais ordinaire. Hein. Après quelques coups de pelle, elle commence à tirer partout. Et je me dis, waouh, là j'ai encore mal. Et puis il y a un ange qui est arrivé m'aider. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et un deuxième ange qui est arrivé m'aider. J'ai dit, merci Seigneur. Mais il nous aide dans les difficultés. Mais il y a un pas à faire. Si je n'avais pas pris l'appel et que je n'avais pas commencé, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui va faire tout à notre place. Alors, notre cœur est tortueux. Dieu seul est parfait. C'est lui qui va maintenant venir dans ta vie et il va maintenant te montrer ce qui est tortueux dans ta vie, te montrer quelles pensées sont tortueuses. Il va te rendre conscience de ton péché. Tant que tu n'as pas conscience de ton péché, la Bible nous dit que finalement tu ne pèches pas. Parce que tu n'as pas conscience, tu ne sais même pas que c'est péché. Mais une fois que tu as entendu, une fois qu'on t'a enseigné, une fois qu'on t'a dit « attention à ce niveau-là dans ta vie », et bien maintenant tu es responsable de ce qu'on t'a dit et tu dois faire un pas. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être difficile. Et suivre Jésus est difficile. Jésus n'a jamais facilité les gens à le suivre, jamais. Il a toujours dit, vous vous souvenez quand il y a cet homme riche qui vient et qui dit « moi, j'ai tout fait, j'ai donné, j'ai fait beaucoup de choses pour toi » et puis il lui dit « mais maintenant, vends tout ce que tu as ». Ensuite, il dit « mais c'était exceptionnel, tu ne pouvais pas suivre Jésus facilement, limite, il mettait des barrières, suivez-moi pas, c'est difficile ». Mais ceux qui résistaient, c'est ceux qui allaient plus loin. Parce que c'est ceux qui avaient cette force de caractère de dire « ok, j'ai compris, maintenant je dois bouger, maintenant je dois changer ». Et alors, Dieu est parfait. On revient sur ça. Dieu est parfait, il est saint. Et si lui a souffert dans cette perfection, si lui a souffert en tant que fils de Dieu lui-même, si lui est passé à la croix de Golgotha pour nous sauver, nous, lui qui était parfait, nous qui sommes imparfaits, vous pensez que tout va se passer facilement comme ça? Non. Dieu lui-même a souffert. Lui-même a souffert. Et alors ce matin, quand je préparais cette prédication, je me disais, Seigneur, waouh, le péché c'est quelque chose quand même. Et Dieu me disait, il y aura des gens dans le dimanche matin quand tu vas parler qui sont sous la dépression. La dépression pèse sur eux. Ils sont tirés vers le bas. Ils sont complètement atrophiés, vous voyez. Mais Dieu te dit ce matin, lève ta tête. Lève ta tête. Lève ta tête. Aie le courage de lever ta tête. Et Dieu va te soutenir. On parlait la fois passée de la foi. La foi, c'est comme si Vincent, il est là, je lui tire sa chaise, il tombe. La foi, c'est sa chaise. C'est elle qui le supporte. C'est-à-dire que notre foi, on est fixé sur Jésus et on dit « Jésus, je suis fixé sur toi. Voilà, tu m'as montré ça, j'ai entendu. Je vais faire le pas, je vais me battre. » Et lui, il t'aide. Lui, il te soutient. Il collabore maintenant avec toi. Et il ne faut pas chercher à vivre de grandes choses avant que dans ta vie, il n'y ait pas eu un ménage complet. Ménage de printemps. Moi, j'appelle ça la... J'ai oublié mon terme. Alors, attendez, je le cherche, hein, parce que je l'ai noté. La douche spirituelle, voilà. La douche spirituelle qui correspond à la sanctification. Dieu veut te sanctifier parce qu'il veut habiter en toi, il veut déborder en toi. Et des fois, un petit péché, une petite pensée peut complètement te séparer. Mais Dieu va te parler et c'est difficile. C'est difficile, c'est vraiment difficile quand Dieu commence à te titiller. Ça commence dans tes pensées, tu dis « est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais là ?» Et Dieu tape dans ta conscience et il te dit mais Alex, regarde ce que tu fais, regarde comment tu réagis, regarde ça. » Et ensuite, tu es obligé de prendre une position. Tu es obligé de dire « ok Seigneur, j'arrête. » Mais c'est dur. Chanel fumait. Elle s'est convertie, elle était toute zélée, hein, le feu et tout. C'est elle qui m'a réveillé spirituellement. Tellement sa foi était forte, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, waouh, elle vient du monde, elle se convertit, et puis elle, tout change dans sa vie, il y a des prises de position. Et elle fumait, elle a dit, Seigneur, moi, fumer, j'aime ça, j'aime ça, mon corps demande ça. Mais finalement, il n'y a pas de verset biblique qui me dise que, mais moi, je crois que ce n'est pas bien pour moi. Alors, je vais prendre ma cigarette, je vais l'apprécier la dernière, je vais vraiment l'apprécier, mais je vais la jeter. À partir de ce moment-là, Seigneur, je vais la jeter. Si une fois, j'ai encore envie, eh ben c'est tout. C'est que tu n'es pas vivant, c'est que tu n'es pas grand. Elle a pris sa cigarette, elle a dit, mais je fais le pas. Elle était prête, son cœur était déterminé. Et elle a jeté. Et elle n'a plus jamais retouché. Vous voyez, c'est des choses simples. Je vous parle de la cigarette, mais la sexualité, c'est terrible. Ça touche la jeunesse. Incroyable. La drogue, l'alcool, toutes sortes d'addictions, toutes sortes de choses. Et on est chrétien et on vit avec ça. Et finalement, Dieu a une vie en abondance, il a une destinée pour toi. Et ce sont des petites choses qui, au regard de Dieu, c'est strictement rien. Il veut t'en débarrasser pour que tu ailles plus loin. Mais on vit avec ça et on supporte. Et on devient des chrétiens super forts pour supporter. On supporte. Waouh, je vis avec ça, mais je supporte. Et puis, ça augmente. Hein. Les années passent. Mais la force du chrétien, c'est sa foi qui va lui permettre, à un moment donné, de prendre des décisions radicales. Des décisions radicales. Radicales. Parce que Dieu, il va voir que tu le fais, que tu crois en lui. C'est là le début de ta foi. Au moment où tu fais le pas, il se dit, waouh, lui, je vais l'aider. Mais il faut la foi, là. Si t'as pas la foi, c'est peine perdue. On se suit bien. Alors Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. » Le verset clé, c'est vraiment, le passage clé, c'est vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas. On est en version Semeur. Version Louis II nous dit, si vous ne vous convertissez pas. Convertir égale changer de direction. Et dans ta vie, oui, tu acceptes de donner ta vie à Jésus, mais tous les jours, tu dois te convertir. Tous les jours, Dieu va mettre en évidence quelque chose qui ne va pas dans ta vie et tu dois changer d'attitude. Si tu n'as pas changé d'attitude depuis que tu es chrétien ou si ça fait longtemps que tu n'as pas changé d'attitude, c'est que tu es déjà parfait. Mais j'y crois pas vraiment. Changer d'attitude. Et Jésus, moi j'aime bien lire Jésus parce qu'il prend un petit enfant. Et on peut se demander, mais pourquoi il prend un petit enfant? Les enfants seraient-ils meilleurs que nous? Mais vous savez, je comprenais pas ça avant. Avant d'avoir des enfants, je comprenais pas ce verset vraiment. Je comprenais pas la profondeur. Mais quand je vois mes enfants, je passe ma vie à essayer de les éduquer et de leur apprendre le bien. Constamment. Tu dois faire ça, c'est mieux pour toi. Il faudrait faire comme ça. Attention. Et constamment, je leur dis, fais pas ça. Parce que je leur ai pas appris à faire le mal. C'est inné chez eux. C'est inné. Ils font des bêtises constamment. Constamment. Mais je ne leur apprends pas. Je n'ai jamais dit, allez, viens Timothée, on va aller s'amuser, on va aller faire des bêtises. Viens là, regarde, tu fais comme ça, tu tapes comme ça, et là, tu mets une gifle. Et voilà, je n'ai jamais appris ça à mes enfants. Et pourtant, ils le font tout naturellement. Je passe mon temps à dire, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ça. C'est incroyable quand même. Et on voit, et chez l'enfant, vous pouvez voir, nous, on contrôle. Vous savez, nous, on a appris à contrôler nos émotions. Des fois, tu peux parler à quelqu'un et il y a le feu qui démarre, mais tu contrôles, tu temporises. Mais un enfant, quand vous l'éduquez, vous devez lui apprendre à se contrôler. Vous devez le tailler comme ça. Hein. Et parce que sinon, voyez, hein, ils sont là et ça réfléchit pas. Ils sont pas conscients du contexte, de ce qui se passe autour d'eux. Et il réagit. Alors il va réagir dans le bien. D'un coup, l'enfant va sauter. Il va avoir envie de vous faire un câlin. Il vous fait un câlin. Imaginez-vous si je cours vers Sandy. Ça, Sandy. Et pourtant, j'aime Sandy. Vous voyez. Mais on se contrôle. Bonjour Sandy. Je t'apprécie beaucoup. Tu sais que ce matin, la louange était exceptionnelle. Vous voyez. Mais un enfant, c'est pas ça. C'est tout sort spontanément. Mais dans le bien comme dans le mal. Mais le mal, on ne leur apprend pas. C'est fort quand même. Ah là 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 là. Timothée, il s'amuse souvent à sauter. Et alors, il monte quelque part, il saute une fois, deux fois. Et je lui dis non, saute pas, tu vas te faire mal. Je sais qu'il va le faire mal. Je sais qu'il va se faire mal. Je suis son père, je comprends les choses. Et alors, il saute et là, il tombe et il se claque la tête. Alors moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Mais finalement, il ne m'a pas écouté, il a désobéi. Il s'est fait mal. Et la leçon, elle vient de qui? Elle vient de moi? Non, elle vient de la situation. Il est en train de payer sa désobéissance. Il paye les conséquences de sa désobéissance. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu est un père. Et il va t'éduquer. Il va vraiment t'éduquer. Et prépare-toi à être éduqué par Dieu. parce qu'il va te dire des choses une fois, deux fois, trois fois. Et puis, tu vas jouer le ultra spirituel. Moi, je sais. Ouais. Mais non, loin de moi. Et puis, boum, tu vas tomber. Et tu vas te prendre une claque. Mais une claque comme jamais. Et cette claque-là, le pire, c'est que tu vas en vouloir à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi il m'arrive ça ? Et patati, et patata. Mais tu es responsable. Tu es responsable de ta désobéissance. Tu es responsable du péché. Tu es responsable. Tu n'as pas écouté. Et Jésus nous dit, changez d'attitude. Devenez comme ces petits-enfants. Parce que les petits-enfants, qu'est-ce qui se passe ? Mes enfants, quand je leur dis, arrête de faire ça, ils n'aiment pas. Hein. Et quand ils ont un éclair de lucidité, et qu'ils se disent, c'est vrai qu'il y a peut-être raison, ils vont chouigner pendant une demi-heure, et après ils vont, ok, c'est bon, comme si plus rien ne s'était passé, ils acceptent. Vous voyez, ils acceptent. Et puis, automatiquement, ils digèrent ce qui a été dit. Ils le digèrent, et puis ils ne le font plus. Quand ça marche. Vous voyez ? Quand ça marche. Mais nous, on doit être comme ces petits-enfants. Jésus ne nous demande pas d'être parfait face à nos faiblesses. À dire, moi, cette faiblesse, je l'ai éradiquée comme ça. J'avais tellement la foi que il n'y avait plus rien. Non, il sait que ça va être dur pour nous. Mais ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on ait cette attitude de se dire, ok, je reconnais, tu vas chouiner, tu vas peut-être te battre avec Dieu, tu vas peut-être dire, ah, j'aimais tellement ça. Tu vas peut-être te battre. Mais tu dois avoir cette attitude de cœur de t'humilier, de te rabaisser. Parce que Dieu a une vision, comme un parent a une vision globale sur les choses, Dieu a une vision globale sur notre vie. Et il sait ce qui ne t'ira pas, il sait ce qui va te faire chuter, il sait ce qui va te tirer dans le trou. Il le sait. Alors, il vaut mieux être simple dans la vie. Il y en a qui se battent et qui luttent avec leur péché pendant des années parce qu'ils aiment ça. D'accord ? Mais finalement, il vaut mieux s'écraser une bonne fois pour toutes, passer à autre chose, et puis tu vas continuer à avancer. Vous comprenez ? Mais ça va peut-être te demander un an, 6 mois, du combat intense. Il y a des gens qui sont totalement addicts à l'alcool, au sexe, à la drogue, et qui sont chez eux en train de se rouler par terre. Parce qu'ils résistent. Et ils disent, Seigneur, ils crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Seigneur, libère-moi, ils ne sont pas libérés. Seigneur, libère-moi, ils ne sont pas libérés. Libère-moi, ils roulent, ils pleurent, ils se battent. Et à un moment donné, vient la délivrance. Ce n'est pas toi qui maîtrise quand Dieu va faire les choses. Parce qu'il est en train de t'éduquer. Il est en train de te façonner. Parce qu'après ça, une fois que Dieu a fait le ménage dans ta vie spirituelle, tu vas commencer le combat avec Satan. Vous voyez, on a vu qu'il y a un combat avec Satan. Mais tant qu'il y a des péchés dans ta vie, Satan a un droit sur ta vie. Il y a un droit et il va toujours te titiller. Tu vas tout le temps chuter, constamment. T'avances pas. Tu te frustres contre Dieu, tu quittes l'église, tu quittes tout. Parce que finalement, tu n'as jamais vécu la vie en abondance et tu n'as jamais vécu le combat spirituel. Mais je peux vous dire que quand vous rentrez réellement dans le combat spirituel, ça fait peur. Et tes petites faiblesses, c'est rien du tout. C'est 1% du combat spirituel. 1%. Une fois, je priais, j'ai senti les puissances des ténèbres arriver. On était à l'intercession et je priais, on priait pour une situation, on priait pour quelqu'un. On était en train de se battre pour quelqu'un, pour la situation de quelqu'un. Et on se battait, il y avait le combat spirituel. On disait « Seigneur », on proclamait des belles choses. « T'es un grand Dieu, t'es un Dieu qui libère, t'es le Dieu de guérison, t'es le Dieu qui va chercher là où il y a la mort, tu amènes la vie. » Toutes ces choses-là. Et d'un coup, les puissances des ténèbres sont tombées. Et moi, j'étais là, je peux vous dire que je tremblais. Je tremblais. Ça demande d'être affermi, tout ça. Mais la première chose, c'est commence à balayer dans ta vie ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est dur, hein ? Vos têtes, c'est exceptionnel. Alors, y a un verset qui est affiché dans la salle des enfants. Et ça dit... C'est Genèse 4, verset 7. Si tu agis bien, c'est quand Caïn est sur le point. En lui, vous voyez, c'est comme un gosse, là, Caïn. Et il y a cette envie de meurtre contre son frère. Et Dieu vient le voir et lui dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Dieu le prévient de ce qui va se passer. Il sait, Il sait les pensées de son cœur. Il sait que c'est tortueux. Il sait que son cœur est moisi à l'intérieur là. Mais il vient quand même avec beaucoup d'amour et il le prévient. Et il lui dit, si tu agis bien. Et la version dans la salle là-bas, c'est « Le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Son désir se porte sur toi. Il cherche à te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Tu dois être le maître du péché. Tu dois avoir cette vision, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. J'ai l'occasion de parler à beaucoup de jeunes. Et un fléau qui touche la jeunesse, c'est la pornographie. Ça touche, que ce soit fille comme garçon, je peux vous le dire. Et la première chose que je leur dis, c'est « Très bien, je peux prier pour toi. Tu pourrais être libéré comme ça, mais la première chose, c'est que tu sais ce qui va te faire tomber. Tu le sais pertinemment. Tu le sais. Prends ton ordinateur, tu le brises s'il faut. Prends toutes les choses qui peuvent t'amener à pécher, tu les brises s'il faut. Mais maîtrise-le, domine sur lui. Jusqu'au moment où ça n'aura plus d'effet sur toi. Est-ce qu'on se suit? Alors, je regarde si j'avais encore quelque chose à dire. Donc ok, Jésus a vaincu le péché. Et alors, ce matin, ce que j'aimerais, c'est que on puisse examiner notre conscience. Chacun de vous, vous avez une conscience. Apprenez à l'écouter. Parce que Dieu passe par votre conscience et il tape à la porte. Il dit attention. Et il faut apprendre à écouter ça. Et finalement, dans la vie, au quotidien, on va tellement vite que des fois, on n'écoute pas tout ça. Ça passe et puis Dieu nous parle. Il peut te parler dans la voiture et peut te dire attention là, il vient comme un père aimant, comme moi qui viens vers Timothée, qui lui dit attention, attention. Et il vient et lui est tellement dans l'enthousiasme de jouer qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. On est des fois tellement dans l'enthousiasme de nos vies qu'on n'écoute pas. On a tellement de choses à faire. Mais écoute ta conscience ce matin. Entends ton Dieu qui te parle. Chacun de vous, il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en règle. Moi-même. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais c'est à moi de faire le pas. Alors, on va prier ce matin. Je vais m'arrêter là parce que il y a vraiment des personnes ce matin qui ont besoin de prendre une décision. Il y a des personnes ce matin qui ont besoin d'être libérées totalement. Et ça va passer par ta décision. Il y a des gens qui ont vraiment des positions à prendre dans leur vie. Des positions claires. Claire, claire, claire. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie chrétienne sous un joug. Ou tu ne peux pas continuer, si tu ne connais pas Jésus, de vivre dans ce monde qui te ballotte de là, de ci, de là, et puis être mal dans ta peau. J'avais encore un verset, Gaël. C'était... Je l'ai donné tout à l'heure, excusez-moi, mais... Ah oui, c'est Jean 10:10. Voler, détruire, égorger. Deuxième partie du verset. Moi, Jésus, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 1, c'est la version seconde. Dans la version semeur, on dit moi, je suis venu pour les brebis et pour qu'elles aient la vie en abondance. La vie en abondance. Donc Jésus a pour toi la vie en abondance. Il commence par te mettre des claques, par t'éduquer, par te tailler, pour que tu aies cette vie en abondance, pour que tu puisses dominer. Ça marche. Et il y a des gens qui ne vivent pas dans l'abondance. Il y a des gens qui sont sous la déprime, sous certaines choses qui les tiraillent tout le temps. Tu vas sortir de là, tu es heureux, et 30 secondes après, boum, il y a un phénomène qui va se passer dans ta vie, tu vas te mettre à râler, et il n'y a pas la vie en abondance là. Et il y a une promesse. Satan veut t'égorger, tu dois être conscient. Satan veut te bouffer littéralement. Il veut ta peau. Mais Jésus, lui, il a la vie en abondance pour toi. Mais il va t'éduquer. On n'entend pas souvent ce message-là. Souvent, c'est Jésus a tout fait pour moi. Ouais, il a tout fait pour moi. Oui, il a tout fait pour toi, mais on va faire un choix. Alors, on va se lever, on va commencer à prier. On va vraiment s'attendre à Dieu. et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.